Ésaïe chapitre 53. Prophétie sur la venue de Jésus, hein, donc. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. On connaît tous ce passage d'Ésaïe 53 qui nous rappelle une prophétie sur la venue de Jésus et tout particulièrement ces moments douloureux sur la croix. On ne va pas étudier le texte ce matin, mais je voulais introduire par là puisque dans une semaine c'était Pâques. Et donc j'aimerais parler des dernières paroles en fait de Jésus sur la croix. Il a dit quelques petites paroles avant de mourir et on va aller voir. Et donc je vous ai donné des versets au fur et à mesure, je vous appellerai. Hein. Mais voici venu d'une certaine manière le dernier souffle de vie de Jésus-Christ, voilà environ trois ans, un peu plus même, qu'il a parcouru Israël pour annoncer la bonne nouvelle, annoncer aussi qu'il mourrait un jour sur la croix, et le voilà face à l'œuvre magistrale qu'il va accomplir, cette fameuse croix à Golgotha. Il vient de refuser le vin mêlé de fiel, hein, ça étourdissait généralement ceux qui étaient condamnés, il veut absolument être conscient de ce qu'il est en train de faire, il est cloué là sur la croix, on imagine la douleur. Et le voilà qui est élevé et qui va agoniser tout doucement et va dire quelques petites paroles que je trouve assez profondes. Et moi, j'aime bien de temps en temps m'asseoir devant cette croix, même si Jésus est ressuscité aujourd'hui, et prendre le temps de s'asseoir et de regarder cette croix, et regarder Jésus-Christ et ce qu'il était en train de faire pour nous à ce moment-là, et quelque part écouter tout simplement ses paroles. Moi, ça me redonne du courage, même si lui a souffert, mais il l'a accepté pour moi et pour me donner non seulement le salut, mais aussi une espérance. On va méditer ces sept paroles de Jésus sur cette croix avant qu'il offre pleinement sa vie. Donc quelqu'un, normalement, Luc 23, 34, et si quelqu'un veut le lire. Luc 23, 34. Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà les premières paroles, les mots du pardon. Le pardon. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais Jésus est sur une croix en train de souffrir. Il est innocent et il est en train de pardonner ses bourreaux. Alors ça a été prophétisé dans l'Ancien Testament, par exemple, on l'a lu dans Ésaïe 53 et peut-être ailleurs, mais Jésus a intercédé pour les coupables. Moi, quand je suis face à un coupable, généralement, je le zigouille, comme on dit. Il est coupable, il mérite d'être puni. Mais Jésus était innocent et face à ces personnes qui étaient coupables, il intercède pour eux. Il pardonne ceux qui étaient en train de le tuer, lui qui était innocent, qui n'avait rien fait. Et surtout, ils étaient en train de clouer le Messie. Et ça, c'était quelque chose d'absolument grave pour pour Israël qui attendait ce Messie, ils ne l'ont pas reconnu en Jésus-Christ. Mais devant ses ennemis, Jésus aime ses ennemis. Il a dit plusieurs fois qu'il fallait aimer son prochain et même parfois aimer son ennemi. Et Jésus ne fait pas que parler, il accomplit ou il met en pratique tout simplement son enseignement. Alors là, pour moi, en tout cas, j'y vois là tout l'amour de Jésus-Christ dans ce sacrifice. Il offre le pardon à des gens qui étaient ennemis de Dieu. Parce qu'avant de nous convertir, nous étions tous ennemis de Dieu. Personne cherchait Dieu, on ne voulait pas de Dieu. Et même parfois, on maudissait Dieu. Et Jésus, sur cette croix, nous connaissait tous. Et il savait qui on était et qu'au début, on ne voudrait pas de lui. Et pourtant, il a accepté de mourir sur cette croix pour moi. Vous avez déjà offert votre vie pour quelqu'un qui est coupable, pour quelqu'un qui est votre ennemi et qui ne vous aime pas. Je ne sais même pas si on va lui donner un euro. Hein. Mais c'est ce que Jésus a fait, en fait, pour des gens qui ne l'aimaient pas. Et il pardonne, en plus, ceux qui sont en train de faire là. Jésus désire pardonner celui qui accepte son pardon. Et en cette période de Pâques, c'est peut-être l'occasion de réfléchir où j'en suis avec Dieu. Est-ce que j'ai vraiment accepté le pardon de Dieu dans ma vie ? Les péchés, est-ce que ces péchés ont été vraiment pardonnés? Est-ce que je désire ce pardon dans ma vie? Et si je l'ai déjà fait, je crois que c'est l'occasion d'y réfléchir profondément, même si ce n'est pas qu'à Pâques normalement qu'on devrait faire ça, mais réfléchir vraiment de la profondeur de l'amour de Jésus-Christ pour moi. Dans la chronologie, à ce moment-là, les soldats sont au pied de la croix et se partagent en fait les vêtements de Jésus. Il y a une prophétie qui disait qu'on ne déchirerait pas cette robe parce qu'habituellement, les soldats déchiraient la robe et se donnaient chacun une partie de la robe. Et là, ils la tirent au sort. Et la prophétie est accomplie à ce moment-là. Deuxième mot, les mots du salut. Luc 23, 42 à 43. Si quelqu'un l'a, bien fort. Hein.
Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis.
Merci. Juste à côté, il y avait deux brigands, et un des brigands est en train de parler avec le Seigneur, hein, et découvre Jésus-Christ et commence à avoir la foi, et cette foi, on voit, du brigand va le sauver. On peut analyser cela de plusieurs manières. D'abord, on voit qu'il a une crainte de Dieu. Hein. L'autre se moquait un peu de Jésus, mais lui avait une crainte de Dieu. Non seulement il a une crainte de Dieu, mais en ayant cette crainte de Dieu, il reconnaît son péché. On ne peut pas reconnaître son péché si on ne craint pas Dieu, si Dieu c'est personne pour moi. Mais si je comprends la grandeur de Dieu, sa sainteté, alors à ce moment-là, je commence à reconnaître qui je suis devant lui. Il reconnaît son péché et il dit, ma condamnation à moi, elle est méritée. Et tout pécheur, normalement, devrait dire, ma condamnation est méritée. Je suis normalement à la base destiné loin de Dieu dans l'enfer, comme on dit, parce que j'ai péché. Et la Bible nous dit que nous avons une nature pécheresse et elle est condamnée par le Seigneur. Mais c'est bien de le reconnaître. Il faut le reconnaître qu'on est pécheur. Si je ne reconnais pas que je ne suis pas pécheur, ou si je ne reconnais pas que je suis pécheur, pardon, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de sauveur. Je n'ai pas besoin de Jésus si je ne suis pas pécheur dans ma vie. Il faut d'abord reconnaître la profondeur de son péché et puis reconnaître aussi la condamnation de ce péché, hein, loin de Dieu. Lui, il craint Dieu, il reconnaît son péché, il reconnaît aussi l'innocence de Christ. Hein. Il fait de Christ un homme sans péché. Il dit, toi, tu n'as rien fait, tu ne mérites pas en fait ce qu'il était en train de subir là. Moi, oui, mais toi, non. Et voilà un homme sans péché. Il place sa foi aussi en Christ le divin. Il le met au-dessus. Hein, parce que, comme il va parler des morts ensuite... Il n'y a que Dieu qui parle des morts. Moi, je n'ai aucun pouvoir sur la mort et je ne peux pas décider de ce qui se passe après. Il reconnaît là en Christ, justement, qu'il est divin. Il demande en même temps que Christ se souvienne de lui. En fait, quelque part, il demande tout simplement le salut, hein, d'être avec le Seigneur à ses côtés dans la mort, évidemment. Et il exprime aussi la royauté du Christ et son retour. Et ça, c'est impressionnant parce que dans les petites paroles qu'il y a là, hein, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a énormément de choses, de déclarations de la part de ce brigand. Il reconnaît non seulement que Christ est roi, mais en plus qu'il va revenir, puisqu'il lui demande de se souvenir. Et il croit quelque part à la résurrection de Jésus-Christ, tout simplement. C'est quand même assez impressionnant tout ce que ce brigand, en quelques instants, a pu confesser hein, de la part de Jésus-Christ. Et Jésus pardonne, on l'a dit, tous les pécheurs repentants, et même un brigand, parce qu'il était coupable, et il a fait du mal, et il s'est repenti, et le Seigneur lui a pardonné. Souvent je pose la question, si Hitler s'était repenti, est-ce que Christ l'aurait pardonné? Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conséquences. Hein. Mais si quelqu'un se repent sincèrement devant Dieu, Jésus pardonne ses péchés. Peut-être que nous, des fois, on dit on a fait des choses qui sont tellement terribles et que Dieu ne peut pas pardonner. Dieu peut absolument tout pardonner. Absolument tout. À condition, évidemment, de se repentir et d'être sincère devant Dieu. Il ne s'agit pas de dire « Seigneur, pardon, pardon, pardon », puis je recommence vite fait le lendemain. Alors des fois, on recommence les choses, hélas, mais parce qu'il y a un processus pour en sortir. Mais il faut être sincère devant le Seigneur. Et ça donne l'assurance du salut, puisqu'il dit à un moment, tu seras avec moi dans le paradis aujourd'hui. Alors on ne parle pas de la théologie, mais il dit à ce brigand, tu es avec moi dans le paradis, ça veut dire que tu es sauvé, sur la base de sa foi, tout simplement. Et pour moi, chrétien, alors il y a la vie, puis il y a la mort, et puis il y a après. Si je suis né de nouveau, si j'ai accepté Jésus-Christ, j'ai l'assurance de partager l'éternité avec Jésus-Christ. C'est une belle espérance, non ? Par rapport à ce monde qui, je ne sais pas, cherche son espérance dans l'argent, la gloire, la beauté, ou je ne sais pas quoi. Ben nous, on a une espérance en Jésus-Christ. Et Jésus lui promet le paradis, il rassure tout simplement ce croyant qu'il sera avec lui et que la mort n'est pas la fin, au contraire, qu'il y a une suite après. Et Jésus exprime son désir de communion aussi là avec l'homme. Hein. Tu seras avec moi dans le paradis. Dieu a toujours voulu réconcilier le pécheur avec lui. Il le fait encore aujourd'hui. Et une fois que je me suis converti, je suis justement réconcilié avec le Sauveur qui était en colère après moi à cause de mon péché. Tu seras avec moi au paradis. Et j'imagine que bon, il y a la mort qui est là, mais le brigand devait être apaisé à ce moment-là. Donc, deuxième mot, hein, ou deuxième phrase, on pourrait dire, c'est parole de salut, un salut par grâce pour le pécheur qui se repent. Dieu offre un cadeau, mais il demande quand même de se repentir, d'accepter qu'on s'est planté jusqu'à présent, comme on a vu vendredi, que la conversion, c'est faire demi-tour. Hein. J'ai marché dans un sens et je me suis trompé. Et je m'arrête à un moment dans ma vie, je demande pardon au Seigneur et puis je prends une autre direction. Et c'est le sens que Dieu nous donne à notre vie. Et c'est ça qui me permet d'avoir l'assurance de mon salut. Il ne faut pas attendre, comme ce brigand, d'être sur une croix pour croire en Jésus-Christ. Il ne faut pas attendre le dernier moment. C'est aujourd'hui qu'il faut le faire. Troisième mot sur cette croix, les mots d'affection dans Jean 19, 26 à 27. Jean 19, 26 à 27.
Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Mmh.
Jésus, malgré qu'il soit sur la croix, s'occupe de sa famille. C'est intéressant quand même quand on y réfléchit. Nous, quand on est dans l'épreuve, on s'occupe de plus rien, à part de l'épreuve. Mais le Seigneur est calme, enfin calme. En tout cas, il voit là l'angoisse de sa maman, entre guillemets, hein, de Marie, devant son fils mourant. Alors, il y a des mamans ici, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est que de voir son fils sur une croix. Je n'ose même pas imaginer, le papa était certainement décédé, puisqu'on ne parle plus de Joseph, mais voilà la maman devant son fils qui est en train d'agoniser sur une croix. Où elle savait qu'il n'était pas n'importe qui, mais quand même, on reste une maman, à ce qui paraît, hein. Et elle doit se rappeler certainement à ce moment-là la prophétie de Siméon, hein, qui avait dit qu'il y a comme une épée qui va transpercer son âme à un moment à cause de la venue de Jésus. Hein, c'est dans Luc 2. La mort de Jésus va laisser un grand vide certainement à cette maman, et évidemment aux disciples et à tous ceux qui le connaissaient. Mais Jésus s'occupe de sa mère jusqu'au bout, et il va confier à Marie à Jean, qui maintenant va s'en occuper comme sa propre mère, et va le faire, hein, et quelque part, il nous rappelle les 10 commandements. Honore ton père et ta mère. Et c'est ce que Jésus est en train de faire à ce moment-là. Il honore sa mère dans des moments et des circonstances vraiment pas évidents. Alors des fois, nous, je pense qu'on honore nos parents, enfin je l'espère. Hein, mais garder ce calme, cette lucidité, moi je trouve que c'est extraordinaire, surtout quand on est sur une croix. Quand on regarde la chronologie, on arrive à un moment où les ténèbres maintenant vont tomber sur Jérusalem. Il est environ 15 heures. Hein. On voit ça dans d'autres passages. Et puis il y a les mots de l'angoisse qui vont venir là. Matthieu 27, 46. Matthieu 27, 46, fort.
Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte disant « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Mot d'angoisse. Il est abandonné de tous, nous dit le psaume 22. Et il est moqué par les soldats, il a été trahi par certains disciples, les disciples sont loin alors que certains disaient « Ah, j'irai mourir avec toi !» Pouf, pouf, je m'en vais. Il est abandonné non seulement de tout le monde, mais là, il va être abandonné du Père pendant un laps de temps. Parce qu'en devenant péché, le Père, dans toute sa justice, doit se détourner, en fait, du Fils. Parce que le Père, qui est saint, ne peut pas accepter le péché. Et il va se détourner à ce moment-là de son Fils. Tout le monde l'a abandonné. Souvenons-nous qu'il fait ça pour des gens qu'il n'aime pas, qui le détestent, qui le haïssent à ce moment-là. Je ne sais pas si on y réfléchit vraiment, profondément. Abandonné de tous, alors que lui avait vécu en communion avec le Père, parfaitement pour le Père, il est abandonné à ce moment-là, laps du temps, mais il en est séparé pendant cette croix. C'est le cri aussi qui exprime en fait l'horreur du péché. Souvent on parle de péché mignon, de petit péché, voilà, bon, on enrobe ça dans du sucre et puis c'est mignon, quoi. Et bien là, dans ce cri de Jésus, on comprend en fait la profondeur du péché. On ne parle pas du meurtre là, on parle de tous les péchés, quels qu'ils soient, mauvaise pensée, je ne sais pas, le vol, enfin toutes ces choses-là. Le péché nous semble si plaisant parfois, on aime le péché, je suis désolé de le dire, mais c'est vrai, on aime le péché. Le Seigneur nous apprend à ne plus l'aimer, évidemment, et surtout quand on regarde sa croix, il nous montre tout simplement la noirceur du péché, et tout ça face à la sainteté de Jésus-Christ, ça fait un sacré contraste. C'est du noir et blanc, on pourrait dire. Mais Jésus a pris nos péchés, et non seulement il a pris nos péchés, à condition que je l'accepte, mais non seulement il a pris les péchés, mais il a accepté la sanction du péché. Parce que notre péché mérite que nous allions sur la croix. Vous acceptez d'aller sur la croix? On va dire non, mais pour beaucoup de gens qui ne se repentiront pas, quelque part, la mort éternelle, c'est cette croix qu'ils vont subir aussi. Le Seigneur a accepté de porter cette croix et de porter la sanction, la mort, pour que je puisse, moi, être tout simplement sauvé. Vous savez, quand on essaie d'imaginer ce cri de Jésus, « Tu m'as abandonné », ça devait résonner très fort. Mais à un moment, tous ceux qui vont refuser Jésus-Christ dans leur vie, qui vont partir dans la mort, ben, quelque part, ils vont aussi crier de la même manière. Parce qu'ils savaient et n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et j'imagine les cris, on voit ça dans l'homme riche et Lazare, dans la parabole, où cet homme riche crie à Abraham en disant « Mais va les prévenir !» Parce que c'est vrai, parce que c'est vrai, l'enfer existe réellement. Et j'imagine le nombre de cris de regret qu'il va y avoir aujourd'hui en enfer, qu'il va y avoir encore dans l'avenir. Mais Jésus, lui, il est resté fidèle à son Père, malgré toutes les circonstances effroyables qu'il a dû traverser. Nous, on est fidèle au Seigneur quand tout va bien. J'ai de l'argent, j'ai un travail, tout va bien, donc je suis fidèle, je suis fier de moi, je suis le Seigneur. Et quand tout va mal, bien souvent, notre fidélité, elle commence un peu à basculer. Le Seigneur nous montre l'exemple tout simplement que même quand tout va mal, il veut qu'on reste fidèle à son exemple. Autre mot, les mots d'un humain en souffrance. Jean 19, 28.
Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif.
Il dit simplement, j'ai soif. Mais là-dedans, il nous rappelle beaucoup de choses. D'abord, qu'il y a peu de temps, qui est là devant lui, il s'est soumis au Père. Il s'est soumis au Père en se disant qu'il aurait aussi pu appeler une légion d'anges. Déjà, à Gethsémané, quand il était arrêté, ou à ce moment-là, sur la croix, il aurait pu faire ça. Des anges seraient venus, l'auraient détaché de la croix, on l'aurait ratiboisé, tout le monde, tous ses ennemis, ça aurait été réglé. Moi, si j'avais ce pouvoir, je l'aurais fait. Enfin, vous, je pense aussi. C'est pas très plaisant, la croix. Mais il faut comprendre que non seulement Jésus faisait ça volontairement pour nous, mais il avait la possibilité d'échapper à ça. Il avait la capacité d'échapper à ça. Donc il est resté là jusqu'au bout, volontairement, en train d'obéir à son Père. Il se soumettait au Père. Souvent on dit, oui, je veux me soumettre au Seigneur, mais jusqu'à quel point je me soumets à mon Seigneur? Jusqu'à quel point je veux lui obéir, lui rester fidèle? Tout va bien, je suis fidèle au Seigneur. Tout va mal, je m'écarte bien souvent. Mais le Seigneur veut qu'on reste fidèle jusqu'au bout et dans les grandes difficultés même. Ça rappelle le psaume 69 où il est dit « J'ai soif ». Ça démontre là, en juste deux mots, toute l'humanité de Jésus-Christ sur cette croix. Cette soif rappelle que Jésus était fait de chair aussi. Et qu'on pourrait dire « Ah, il est Dieu, donc il était sur la croix, il ne subissait pas les choses comme nous ». Ben si, il a soif. Vous avez soif des fois? Vous n'étiez pas encore dans un désert, alors, je crois, On a tous soif à un moment, mais là, cette soif, évidemment, c'était par rapport à la mort qu'il était en train de subir. Mais il avait soif, il était humain, il était fait de chair, et il éprouvait la douleur comme n'importe quel humain à ce moment-là. en plus, ajoutez là tout le poids du péché du monde. Je ne sais pas si on peut imaginer ça. Parce que beaucoup ont été crucifiés, mais ils n'ont pas porté le péché du monde, toute la noirceur de ce péché. Il démontre aussi alors, parce qu'il est humain, qu'il peut nous comprendre. Bien souvent, dans des situations difficiles, on dit « Ah, tu ne peux pas me comprendre ». Dieu peut me comprendre parce qu'il est comme moi. Enfin, Jésus, il était comme moi. Il a été tenté comme nous, mais lui n'a pas péché. Et quand je suis dans la tentation, je ne peux pas dire à Jésus « Tu ne peux pas comprendre si il a passé toutes ces choses et même pire encore que nous. » Et il peut très bien nous comprendre la lutte qu'il y a là, les difficultés. Il peut absolument bien nous comprendre. C'est là toute l'humanité de Christ qui est exprimée. Et dans cette humanité, sur cette croix, en disant « J'ai soif », il disait « Je te comprends aussi. Je comprends parfaitement qui tu es et ce que tu as besoin dans ta vie. » Et tout particulièrement là, évidemment, le salut. À ce moment-là, dans la chronologie, Jésus boit du vinaigre. Il avait refusé au début, mais là, il boit un vinaigre, mais ce n'est pas quelque chose qui l'étourdissait. Sixième mot, on pourrait dire le mot de la victoire. Jean 19, verset 30, juste le début. Jean 19, 30. La victoire, là. Ça paraît d'abord être une défaite totale, mais finalement, c'est l'accomplissement de l'œuvre terrestre de Jésus-Christ. Il achève là cette œuvre. Il est venu du ciel, de la gloire. Il a abandonné tout cela pour devenir un être humain et aller jusqu'à la croix. Et il accomplit son œuvre. Il accomplit non seulement les prophéties de l'Ancien Testament, mais il accomplit là aussi ce qui était prophétisé concernant le Messie, ce Messie qui devait venir en Israël. Les disciples croyaient qu'il allait renverser les Romains, instaurer un royaume juif là, mais Jésus était venu pour beaucoup, beaucoup plus précieux que toutes ces choses-là, même si un jour il reviendra pour instaurer son royaume. Il accomplit l'expiation, c'est-à-dire cet agneau qui est généralement sacrifié, Alors on sacrifiait jusqu'à présent des agneaux dans le temple, mais ça n'ôtait pas le péché de l'homme, ça couvrait simplement le péché. Mais là, Jésus-Christ, en tant qu'agneau, s'offre non seulement lui-même, il est le sacrificateur, mais il s'offre en même temps, et son sang peut enlever le péché du monde. Il fait l'expiation, il satisfait Dieu, c'est ce qu'on appelle la propitiation, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom, c'est rendre propice ou apaiser en fait la colère de Dieu. Un pécheur, quelqu'un qui ne s'est pas repenti, est sous la colère de Dieu. Aujourd'hui, on dit Dieu en colère, où ça? On ne voit rien. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu est en colère. Dans l'Apocalypse, par contre, on voit cette colère de Dieu exprimée par des cataclysmes, par plein de choses. Un jour, les hommes vont voir la colère de Dieu. Mais celui qui accepte Jésus-Christ comme son sauveur, lui, Dieu est apaisé à son égard. Et il n'est plus en colère contre celui qui est sauvé. C'est ce qu'on appelle la propitiation. Et puis, il permet aussi la réconciliation. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, le jour où vous avez accepté Jésus-Christ dans votre vie, toutes ces choses se sont enclenchées. Alors, nous, on dit souvent, pardon pour nos péchés, on accepte Jésus, mais il y a eu cette expiation qui était efficace pour moi. Il y a cette satisfaction de Dieu, rendue propice par rapport à la colère qu'il avait contre moi. Et puis, je suis réconcilié. Le pécheur qui était séparé jusqu'à présent est réconcilié avec le Dieu Saint. Quelque chose d'extraordinaire de pouvoir... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des réconciliations humaines, c'est déjà beau, c'est magnifique, quand deux personnes se pardonnent et sont de nouveau ensemble. Mais là, il y a de la joie dans le ciel, nous dit la Bible, chaque fois qu'un pécheur se repent. Et les anges se réjouissent de cela. Et j'imagine le Père, quand il voit quelqu'un qui dit pardon pour ses péchés, combien il doit être heureux. Et de se dire que finalement, son fils a été envoyé sur une croix, ce n'était pas vain. Voilà toutes ces choses que le Seigneur a fait sur cette croix. Il a été victorieux puisqu'il y a un moment, tout est accompli. Je ne sais pas si les gens avaient compris à ce moment-là ce qui se passait, mais il a la victoire sur le péché. Il a transféré tous nos péchés sur lui, à condition évidemment qu'on l'accepte. Et Jésus a porté nos iniquités, nous dit Ésaïe 53, 6. C'était la condamnation du péché et il a porté cette condamnation. C'est la victoire aussi sur la mort. Victoire sur la mort spirituelle d'abord, puisque sans Christ, on est un peu aveugle, on est dans les ténèbres, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, on marche comme on peut, on va trouver des religions, on va trouver des idoles, on va trouver une philosophie, mais à un moment, quand quelqu'un devient chrétien, né de nouveau, il voit spirituellement une nouvelle vie, et Dieu lui donne cette vie spirituelle. Mais il fallait que Jésus meure sur la croix. Et puis victoire sur la mort physique, puisque oui, nous mourrons peut-être, mais à un moment, nous ressusciterons. Et Jésus va le démontrer, de toute façon, 3 jours après qu'il est mort, mais il est ressuscité. Et la résurrection, c'est toute l'espérance du chrétien. J'espère que vous avez cette espérance. Est-ce que ça vous intéresse, un nouveau corps, sans douleur, sans souffrance? Vous aimez avoir mal au dos, au pied, ou je ne sais pas quoi, hein? Si on y réfléchit un petit peu. Mais c'est Jésus qui était sur la croix pour que nous puissions obtenir toutes ces choses aussi. Hein. Tout cet héritage, quand on y réfléchit, c'est énorme. C'est énorme ce que le Seigneur a fait pour moi. Et puis, victoire sur le diable, sur Satan, Hébreux 2, 14, ça nous rappelle cela. Il a été rendu impuissant. Échec de celui qui, finalement, veut amener tout le monde à la mort, veut les amener avec lui en enfer. Le diable sait qu'il a perdu déjà, et tous les démons qui sont avec. Mais s'il peut en emporter plusieurs avec lui là-dedans, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qu'on soit seul ou pas, à mon avis, on souffre autant, mais il veut, certainement par orgueil, là, emmener toutes ces personnes et dire à Dieu, tu vois, moi je les emmène avec moi et tu ne les auras pas. Alors, il n'y a pas un combat entre Dieu et Satan, hein. Souvent on voit dans les films et les philosophies, il y aurait une espèce de dualité entre le mal et le bien. Dieu a déjà remporté la victoire, tout est accompli. Il n'y a pas un combat entre le mal et le mal, le mal et le bien, même s'il y a des luttes entre les anges hein, en ce moment. Mais Jésus a tout accompli à la croix, et ça veut dire que la mort est réduite à l'impuissance. Certes, on va passer par la mort pour certains, pas tous, puisqu'il est dit que l'Église peut être enlevée aujourd'hui, peut-être tout à l'heure, je ne sais pas, et on sera transformé d'un seul coup. Alors moi, j'ai coché l'option enlèvement de l'Église pour moi, alors vous, je ne sais pas, hein, mais je préfère ça que d'être sur un lit à souffrir éventuellement, mais... Paul avait aussi coché l'option, et le pauvre, ça fait 2000 ans que ça ne s'est pas passé. Hein. Donc, il espérait voir cela. Le Seigneur fera ce qu'il veut. Mais voilà, le diable, la mort, est réduit à l'impuissance. Le croyant ne marche plus sous l'autorité du diable à partir du moment qu'il naît de nouveau. Avant, j'étais esclave du diable. Je ne le savais pas forcément. On parle souvent d'un marché d'esclaves, où les incroyants sont dans ce marché d'esclaves, obéissent ou subissent les ordres du diable, mais à un moment on sort de ce marché quand on est de nouveau, quand on accepte Jésus-Christ et on rentre, enfin on sort là de cet esclavage, mais pour devenir esclave encore une fois, et de Christ, on est toujours esclave, mais ce n'est pas les mêmes conditions. Et puis esclave de Christ, mon maître me dit que je suis son ami et que je suis son enfant. Il y a quand même quelques avantages. Mais il ne faut pas se dire que parce que je suis chrétien, je peux tout faire. Je suis libre de tout. Hein. La Bible nous rappelle qu'on est esclave de Christ. Pas dans le sens de fouet, mais esclave dans le sens de dépendance de Christ. Et surtout parce qu'il m'a racheté pour que je puisse devenir son enfant. Alors ce qui semble d'abord là devant toute cette foule, hein, il faut un peu imaginer ces gens qui étaient là, les ténèbres autour, et puis les gens qui devaient se dire, mais voilà, regardez-le, hein, celui qui a parlé, qui a fait des miracles et tout ça, regardez où il est. En train de mourir sur une croix, et il y a l'apparence de la défaite, mais en fait, il y a une grande victoire qui a été accomplie à ce moment-là, sur cette croix-là. Puis à ce moment-là, Jésus boit du vinaigre de nouveau, a même une éponge. Puis les derniers mots, hein, dans Luc 23, 46.
Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et disant ces paroles, il expira.
Dernière parole du Seigneur sur cette croix. Il n'a pas dit grand-chose, mais quelle profondeur. Dernier mot de Jésus avant sa mort, abandonné du Père, en train de souffrir, et la mort qui approche, Christ remet tout simplement sa vie entre les mains du Père. Il l'a abandonné, hein, n'oubliez pas. Il lui fait toujours confiance, complètement confiance. Et malgré l'abandon, il l'appelle toujours Père. C'est magnifique quand on y réfléchit. Nous, dans l'abandon, dans l'épreuve, dans la difficulté, là, on appelle des fois Dieu notre Père. Souvent, on dit, mais tu fais quoi? T'es qui? Tu m'as abandonné? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut bien imaginer. Hein. Enfin, ça, c'est moi. Hein. Vous êtes parfait, je sais. Mais moi, des fois, hein, je lui donne d'autres noms que Père. Parce que, on n'est que des êtres humains. Mais là, en même temps, il démontre que la communion qu'il avait perdue avec le Père, tout est accompli. Maintenant, elle est absolument restaurée avec son Père. Et on voit surtout que le sacrifice, il est total. Et surtout, il est volontaire. On pourrait se dire là, il s'est retrouvé avec les Romains, les Juifs qui l'ont mis, ils l'ont condamné à mort, puis les Romains qui l'ont crucifié. Finalement, il subit tout ce qui se passe, hein, l'ambiance. Plusieurs fois, il avait dit qu'on aurait pu le capturer, ça ne s'est pas fait. Il y a un moment précis, les choses étaient bien préparées d'avance, hein, et surtout c'est lui qui a décidé à un moment, maintenant vous pouvez me capturer, maintenant vous pouvez me prendre, maintenant vous pouvez me crucifier, c'est moi qui décide. Hein, c'est quand même différent que de se dire, il a tout subi involontairement. Christ offre sa vie, et c'est ce qu'il dit dans ses mots. Hein. C'est pas la mort qui le prend. Nous on va mourir, c'est la mort qui va nous prendre. Mais il dit, je te remets. Moi, Christ, je te remets à toi, le Père, tout simplement ma vie. Dans Jean 10, 18, il dit « Personne ne me l'ôte, la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » C'est Christ, à un moment, qui dit « Maintenant, je meurs. » C'est pas la mort qui le prend. Souvent, on comprend pas bien ça. Et ça exprime là tout le sacrifice de Christ. Hein. Il ne meurt pas parce qu'il subit une condamnation là, des Romains. Il meurt parce qu'il veut mourir. Alors, ce n'est pas du suicide, hein. Attention de ne pas être tordu. Il meurt, là, volontairement pour moi, pour me donner à moi la possibilité d'être sauvé, d'avoir une vie chrétienne et d'avoir un avenir aussi avec lui. Il exprime là aussi toute sa divinité, puisqu'il a le pouvoir de la mort, ou d'accès, comme il l'a dit tout à l'heure, hein, il a le pouvoir de donner ou de reprendre cette mort. Et c'est lui qui est Dieu, là, qui décide de s'offrir pleinement pour chacun d'entre nous. C'est là, je crois, l'apogée en fait de l'amour de Dieu pour nous, hein, et de Jésus-Christ pour moi. Il m'offre sa vie volontairement, et là-dedans, il dit, si tu l'acceptes, tu as aussi la vie éternelle. Tu as la possibilité d'être éloigné de l'enfer et de passer l'éternité avec moi, et surtout, en attendant, d'avoir une vie nouvelle, un sens dans ma vie, hein, et de vivre complètement différemment que le monde est en train de vivre aujourd'hui. Et juste au même moment où Jésus va remettre sa vie, il y a le voile du temple qui se déchire. Cet accès qui était jusqu'à présent réservé dans le lieu très saint pour le souverain sacrificateur, une fois par an, il entrait là-dedans, il offrait le sacrifice pour le péché de tout le peuple. À ce moment-là, ce voile se déchire et tout le monde a accès tout simplement à Dieu au travers, évidemment, de Jésus-Christ. Je ne dis jamais, moi je vais vers le Père, je vois toujours Christ entre moi et le Père, parce que je ne peux pas aller vers le Père comme cela, je suis brûlé à cause de mon péché. Mais Christ a donné sa vie pour que j'aie un libre accès aujourd'hui auprès du Père. Et il n'y a pas d'autre accès, ni la Vierge, ni je ne sais pas quelle religion ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autre accès qu'en Jésus-Christ pour aller vers le Père. Et le centenier là, qui va reconnaître en lui le Fils de Dieu, hein, il va dire, alors c'est qu'un Romain, il est là, il fait son boulot, mais il a vu des choses terribles à ce moment-là, hein, les ténèbres et tout ça, et il se dit à un moment, mais c'était vraiment le Fils de Dieu. Je ne sais pas si on réfléchit, certainement qu'il a dû se convertir après, ça c'est moi qui le dis, hein, mais il a dû se convertir pour reconnaître ça dans sa vie. Est-ce que nous, en regardant cette croix, en prenant le temps d'y méditer, est-ce qu'on reconnaît là, en Jésus-Christ, vraiment le Fils de Dieu, dans toute sa splendeur là, dans toute sa profondeur et dans toute sa majesté. L'accès au Père est désormais possible en Christ par la repentance. Je peux m'approcher du Père qui était en colère, mais maintenant, au travers de Jésus-Christ, je peux faire le pas et m'approcher de lui et être sauvé à cause de son sacrifice. Voilà tout ce qui s'est passé devant la croix. Certainement qu'il y a beaucoup de choses, mais la Bible ne dit pas plus. Il n'a pas dit grand-chose en mourant sur cette croix, mais chaque parole était vraiment profonde et utile pour nous, en fait, quelque part. Pour terminer, dans 1 Jean 3:1, il est dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Et l'amour du Père, là, c'est tout simplement d'avoir offert son Fils sur cette croix-là. C'est bientôt Pâques, et je pense qu'on peut méditer sur l'amour de Dieu. Alors souvent, on médite de l'amour de Dieu, c'est-à-dire il m'offre beaucoup de choses, hein, il est mon berger, c'est bien, mais l'amour de Dieu a été exprimé pleinement au travers de son Fils sur la croix. Dans la souffrance, l'horreur du péché, dans la douleur, dans le sang qui a coulé. Voilà l'expression de l'amour de Dieu pour moi. Il a tout donné pour que je puisse être sauvé. Et il y a des gens qui vont dire non à ça. C'est quand même triste. Bon, moi, j'ai dit plusieurs fois non. Je n'avais pas tout compris peut-être à ce moment-là. Et Dieu revient, nous tape sur l'épaule de temps en temps, un petit croche-patte pour qu'on fasse attention au fait qu'il existe, mais voyez quel amour le Père nous a témoigné. Et pendant cette période de Pâques, c'est l'occasion de méditer sur cet amour-là, mais pourquoi pas le partager aussi, hein. Rappelez que Pâques, ce n'est pas des œufs, ce n'est pas des lapins. Eh oui, mais regardez le diable, ce qu'il en a fait de Pâques. Pour qu'on ne se souvienne pas de l'amour de Dieu. Mais nous, on est croyants, et c'est à nous de nous le rappeler. J'aime bien les œufs au chocolat pour autant. Mais on peut rappeler quand même le vrai sens de Pâques à ceux qui veulent bien l'entendre. Leur rappeler qu'on ne peut pas rester insensible devant ce Seigneur qui s'offre là, devant un tel amour. Ce n'est pas possible de rester insensible. Ou alors on a le cœur vraiment dur. Comment ne pas comprendre aussi l'horreur du péché ? Prendre le temps de méditer sur ce que nous faisons tous les jours. Oh, on va encore pécher, mais chaque fois que je chute, je peux demander pardon au Seigneur en me rappelant qu'il est mort à cause de ce péché-là. Et peut-être qu'en comprenant l'horreur ou la profondeur du péché, ben ça me donnera envie de m'en séparer une fois pour toutes. Et puis comprendre là la séparation d'avec Dieu aussi. Si je ne suis pas encore né de nouveau aujourd'hui, je suis séparé de Dieu. Et la croix que Jésus a prise, je la mérite moi en ce moment. Je ne sais pas si vous avez envie de ça. Enfin, moi, je n'ai pas voulu. Mais c'est l'occasion d'y réfléchir et d'accepter Jésus dans votre vie. On va prendre quelques instants de silence, j'aimerais bien, avant de finir ce culte. Juste dans le silence, chacun, on va se recueillir et peut-être tout simplement se réjouir de ce que Jésus a fait pour moi dans ma vie, lui dire merci, mais en silence. Et peut-être quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur aujourd'hui, et face à l'amour de Jésus-Christ, dans sa pleine expression à la croix, ben, peut-être tout simplement lui dire « je veux t'accepter, j'ai besoin de toi dans ma vie et je te demande pardon pour mes péchés ». Ou peut-être au moins, apprends-moi à te connaître davantage et à comprendre ces choses-là. Et puis, à la fin, je prierai tout simplement. On va s'incliner, on va prendre quelques instants dans le silence. Seigneur, nous voulons prendre ce temps de silence pour méditer sur cette croix, sur ce mont Golgotha, sur cette épreuve terrible que tu as accepté de traverser par amour pour chacun d'entre nous. On d'abord être reconnaissant, Seigneur, d'avoir quitté ton ciel de gloire, d'avoir revêtu notre humanité et d'être allé jusqu'à cette croix, accepter les clous, accepter la moquerie, accepter la trahison, Seigneur, toujours par amour pour nous. Merci parce que la croix n'était pas la finalité de ton œuvre, c'est évidemment la résurrection et aujourd'hui tu es bien vivant et à la droite du Père et nous voulons nous en réjouir ce matin. Et merci pour cette croix qui nous permet d'être réconciliés avec toi, de naître de nouveau, de trouver un sens à notre vie. Et Seigneur, tu nous connais chacun dans cette église, dans cette pièce et je te prie de travailler nos cœurs. Sois à mieux comprendre, mieux méditer cette croix et nous réjouir davantage de tous les bénéfices que nous pouvons en tirer, mais peut-être si nous ne t'avons pas encore accepté, de briser notre cœur pour que nous repentions de notre péché et que nous t'acceptions et que ce sang qui efface tout péché efface tout simplement les miens. Merci pour cette œuvre, Seigneur, et je prie pour ce monde qui va bientôt fêter Pâques et qui est loin du vrai sens de Pâques. Donne-nous à nous qui sommes ambassadeurs de cette réconciliation, donne-nous des occasions de parler du vrai sens de Pâques et pourquoi pas de propager cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Tout prions au nom de Jésus-Christ.